Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Les vraies voix du 15 août, bonjour à tous. Nous sommes à la croisée des chemins, des chassés-croisés, des périples estivaux et de tant de réalités qui font, il faut bien le dire, débat. Nos experts vont nous éclairer ce soir sur les transports, les tensions dans le monde, les catastrophes naturelles, notre quotidien. Trois vraies voix sont censées décortiquer, triturer, ausculter, détecter. Au nom du peuple et de la solidarité avec son prochain, Olivier Dartigol, chroniqueur politique.
Bonjour, bonsoir.
Oui, on est entre les deux, à la croisée. Qu'est-ce que je dis ? Au nom d'une société rassemblée et de l'opposition au dysfonctionnement de nos encadrants, Nicolas Jeanneté, directeur de Les Centristes, élu au Conseil de Paris.
Enchanté, bravo à tous.
Oui. Au nom d'une vision à long terme, portée par une certaine grandeur de ce qui fait son pays, Émeric Guisset, secrétaire général adjoint du Millénaire, le think tank, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Vous êtes tous les trois prêts, vous avez été qualifié d'une petite phrase qui, je pense, était assez fidèle à votre volonté ce soir. Nous saluons à la réalisation l'excellente Lucille Montier qui est aux manettes donc, et puis Aurore Cachia qui est votre interlocutrice, chers auditeurs de Sud Radio, sur les comptes Twitter et Facebook. D'ailleurs, vous avez la possibilité de donner votre avis dès 17h30. La première question, le premier débat, faites-vous confiance au train? Il est 17h, vous vous apprêtez peut-être à aller prendre le train. Avez-vous un petit peu la trouille au ventre? Sera-t-il à l'heure? Est-ce que tout va bien fonctionner? Vous nous dites si oui ou non, vous faites confiance donc à ce train sur le compte Twitter et Sud Radio. Et puis bien sûr 0 826 300 300 si vous voulez réagir au débat avec nos vraies voix. C'est parti, coup de cœur ou coup de gueule? Bon, pour moi, au mois d'août, c'est toujours coup de cœur.
Les vraies voix Sud Radio.
Alors le voici, mon coup de cœur, et j'attends évidemment la réaction de nos trois vraies voix, je le rappelle, donc Olivier Dartigol, Nicolas Jeanneté et Émeric Guisset. Être parent d'adolescent, ça concerne certains d'entre nous, là ici Nicolas notamment, être parent d'adolescent nous renvoie à nos premiers contacts avec l'industrie du sexe. Vous vous souvenez, à 14 ans, il nous arrivait de veiller tard devant Canal+, et de tomber sur une image brouillé, qui laissait entrevoir quand même des pratiques inavouables. Nous allions au vidéoclub, apercevions des cassettes au visuel déroutant, mais qui nous rappelait très vite qu'il fallait attendre, c'est du vécu, nos 18 ans pour en louer une, quitte à rougir comme une pivoine face au vendeur quand le moment sera venu. Il y avait ces quelques livres au fond de la librairie qu'il était impossible de regarder sans avoir l'impression que la planète entière nous montrait du doigt.
Ça, c'était moi. J'avoue.
Eh bien, être parent aujourd'hui, c'est se dire que l'accès de nos enfants à tout cela est devenu facile en un clic sur le portable via Internet après avoir écrit le seul mot porno. Mon coup de cœur du jour va donc au magazine d'actualité quinzomadaire 01.net. Il décortique un thème central pour l'éducation sexuelle de nos enfants. Le titre c'est « Adieu porno, bonjour réseau ». Le premier à prendre la parole dans ce sujet est le fameux doc Christian Spitz. Vous l'avez connu, Émeric, vous qui êtes jeune, hein, sur une radio, le doc Edith.
C'était
Fou,
Radio Fun ou quelque chose comme ça. Fun Radio, l'écoutait, oui.
Et on
il donnait les conseils.
Alors lui, il dit d'entrée, je le cite, « La pornographie banalisée par Internet doit être contrebalancée par une éducation à la sensualité pour que les jeunes aient une vision plus structurante de la sexualité et de la relation à l'autre. Comment nos jeunes vont se retrouver face à leur premier amour en ayant en tête le rapport de domination, les fantasmes standardisés des scènes porno qu'ils ont consommées? Que dire des cours d'éducation sexuelle du collège où le professeur leur a livré les données biologiques de la reproduction? Bref, les voici démunis, nos chers ados. Le magazine 01.net a enquêté et perçoit une évolution intéressante. Les réseaux de diffusion de films X sont sur la sellette et risquent des sanctions quand des associations comme le planning familial, l'UNESCO, s'organisent en mettant à disposition des sites d'accompagnement comme onsexprime.fr ou educationsexuelle.com. Et Internet redevient utile, chers amis. Les plateformes vidéo aussi comme Netflix lancent des séries pédagogiques. Des applications, des livres, des chaînes YouTube sont référencées par notre confrère 01.net. Alors, il y a aussi ces influenceurs, beaucoup de femmes d'ailleurs notamment, qui se revendiquent expertes du sexe sur le web et accompagnent nos jeunes avides de conseils. Leur démarche est plus ou moins pertinente, mais la voie est ouverte pour enfin comprendre le plaisir comme un grand. C'est important, Olivier Dartigol, de soulever le problème, mais c'est vrai qu'on joue serré parce que tout est possible et il est temps de reprendre la main.
Oui, c'est un vrai sujet. On sait que beaucoup de spécialistes de ces questions-là nous alertent depuis des années sur la manière dont les gens, dont les jeunes, j'ai envie de dire, entrent en sexualité de manière abîmée par la fréquentation des sites porno, parfois jusqu'à une addiction même, et combien les premiers rapports peuvent être douloureux avec tout ce que vous avez rappelé en termes de performance ou de domination. Bon, enfin, tout ça, tout ce que l'industrie pornographique peut donner comme, sur tous ces thèmes-là. Alors, là où on se pose la question, c'est comment répondre à ça ? Quels outils ? Comment s'armer ? Alors, bien sûr, par de la prévention, de l'éducation. Si on pouvait avoir en effet une riposte via les réseaux sociaux pour contourner cette difficulté-là...
C'est ce qui est en train de se faire, visiblement. C'est ça qui est intéressant.
Alors, je le découvre avec votre billet, Frédéric, tant mieux, à creuser. Ouais. Mais la partie va être serrée, comme vous dites, et là, le rapport de force est très défavorable.
Un papa d'adolescent, justement, Nicolas Jeanneté.
Il y a 2 millions de mineurs en France qui regardent du porno. Ouais. C'est énorme, c'est-à-dire 12% des 19 millions de personnes qui regardent des pornos.
Et ça peut être 10 ans, à l'âge de 10 ans.
Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge.
Plus jeune.
Alors, on a essayé beaucoup de choses. Il y a une loi qui est passée en 2020 pour essayer de bloquer l'accès.
Contrôle parental.
Contrôle parental, on mettait interdit aux mineurs, ça n'a servi à rien, on a été un peu plus loin. Il faut maintenant d'ailleurs, même si c'est gratuit, mettre une carte bleue, payer symboliquement 1 euro, ou même certains sites, il faut montrer sa carte d'identité et même mettre sa photo à côté pour bien montrer qu'on est majeur. Et pourtant, ça ne marche pas. Ce que disait Olivier, c'est dramatique. Moi, chaque année, et je vais l'avoir en septembre, on a une rentrée avec les principaux, les proviseurs de collèges et de lycées. Oui. Et il y a 2 grosses tendances en ce moment. Il y a un problème d'ailleurs de violence générale, où on a des bandes qui viennent de l'extérieur dans la ville et qui viennent dépouiller les jeunes. Et le deuxième, et c'est aberrant pour moi de découvrir ça, c'est la diffusion. Il se passe de portable au portable pendant les cours de récré et il se montre des extraits de films porno, mais qui sont d'une violence inouïe. Et ça va plus loin, puisqu'ils essayent ensuite, et c'est là bien sûr le problème, de reproduire ces scènes en réel.
Et parfois de les filmer, ça peut aller jusqu'au suicide.
Bien sûr, de les filmer, et ensuite de les donner.
Cyberharcèlement,
et quand on voit que dans ces films, s'il y a beaucoup de viols, c'est ce que tu disais Frédéric, de sadomasochisme, etc., les jeunes sont complètement paumés, et s'imaginent que demain, l'amour, c'est violer une fille. Et alors, ça devient dramatique.
Toujours là, mon coup de cœur, décidément, mais il le mérite. Hein, 01.net, c'est bien qu'ils aient fait
ça. C'est presque un coup de gueule.
Un coup de cœur.
Qui se transforme en coup de gueule.
Oui. Mais il référence, en fait. Je vais apprendre à parler français aussi. On peut apprendre la sexualité, puis après à parler français, bien sûr. Voilà, donc il y a un livre qui s'appelle Les Jeunes, la sexualité et Internet, aux éditions François Bourin. 1500 jeunes ont été interrogés. Et en fait, on s'aperçoit que les jeunes se posent régulièrement des questions. Alors, sur, évidemment, la sexualité, sur le corps, sur la santé, sur l'identité sexuelle et aussi sur le genre. Tout cela, ça déborde de questions sur la toile et certains s'en servent. Alors, accompagne, ça peut être positif ou négatif. Qu'en pensez-vous, Émeric ?
Oui, il y a la question de l'éducation et de l'accompagnement. Le grand atout d'Internet, c'est justement de pouvoir trouver les informations qu'on veut au moment où l'on veut. Et finalement, parce que chaque enfant est différent en termes de développement, de maturité en fonction de son âge, et l'une des failles en termes de système éducatif, éducation, c'est qu'on a il y a des cours de prévention, mais ils arrivent parfois trop tôt pour certains enfants qui ne sont pas prêts, finalement, ou trop tard pour d'autres. Et donc, c'est toute cette difficulté où est-ce qu'on met le curseur pour que ce soit utile et en même temps pour ne pas choquer les enfants qui ne sont pas prêts. L'avantage d'Internet, ça peut être celui-là, c'est-à-dire que finalement, cibler le bon moment pour faire la prévention au moment où il faut, avec du contenu qui soit adapté en fonction des âges. Ensuite, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Nicolas Jeanneté sur la question de la régulation des plateformes et des sites, qui est un enjeu majeur, mais où il y a beaucoup de contraintes. Il y a des limites juridiques, déjà, des limites ensuite techniques. Il y a une proposition de loi où finalement... pouvez, si un site pornographique ne respecte pas l'obligation de vérifier l'âge des personnes qui se connectent, le bloquer pour rediriger vers...
Même ça, c'est difficile parce que le lobby des sites pornographiques est extrêmement puissant et ils ont des avocats extrêmement
importants. Mais attention, ils sont affaiblis ces derniers temps avec l'histoire dont Jackie et Michel, vous connaissez.
Bien sûr.
Il y a de la prostitution, il y a des accusations fortes.
Mais même techniquement, vu que la proposition de loi ensuite, c'est de remplacer par un lien vers le site du gouvernement d'information, en raison du trafic et du réseau qui sont sur ces sites internet, ça pourrait faire planter tout simplement le site du gouvernement. Et donc en fait, il y a vraiment une question technique, technologique pour trouver le levier. Et ensuite, deuxième réflexion qu'on peut avoir, est-ce que véritablement on veut que des sites étrangers, est-ce que la plupart de ces plateformes sont possédées à l'étranger, possèdent une liste et des bases de données immenses avec des cartes d'identité des citoyens français ou européens? C'est une autre question qu'on peut se poser d'un point de vue de souveraineté, de sécurité, et ça ouvre d'autres failles et d'autres problèmes dans le système. C'est pour ça que c'est très compliqué. Et actuellement, la principale piste de solution qu'on a, c'est plutôt celle de la prévention, parce que celle de la régulation est très compliquée face à beaucoup de...
Sauf que la prévention...
Et pour conclure, oui, Nicolas Jeannetet.
Que la prévention, moi, mon fils me racontait quand il est au collège, il a eu son premier cours d'éducation sexuelle. Alors, raconte-moi, j'étais curieux de savoir. On parlait de sida, on parlait de préservatif, mais on parlait pas du tout d'amour, de sensualité, même comment faire l'amour. Donc finalement, un gamin, comme disait Olivier, un gamin quand il arrive à avoir envie d'un acte sexuel, il a en vision son cours de collège où on parle de sida, etc. Et puis les films, les extraits qu'il a vus, où c'est du viol, où c'est du sadomasochisme. Oui, c'est très inquiétant. Mais il y a une solution à la limite, c'est d'interdire les sites gratuits, les rendre automatiquement payants dès la première visite, avec une forte somme, pour effectivement, un gamin ne peut pas
avec
forcément...
Avec un système d'abonnement, éventuellement, à voir. Bon, tout cela est passionnant, en tout cas, n'hésitez pas à consulter tous ces documents, là, référencés par nos amis de 01.net, parce que, et c'est ça aussi, ça fait réfléchir, on se dit, c'est quand même intéressant que nos enfants, si on les accompagne sur leur consommation sur Internet, ils vont aussi avoir des réponses que nous, on n'a pas. Moi, par exemple, hier encore, je cherchais un chou-fleur pour une relation sexuelle. On m'avait dit que c'est comme ça qu'on faisait des enfants. Non ? C'est pas comme ça ? Ah, c'est pas comme ça.
Ça s'est bien passé ?
Oui, très très bien. Ah, oui. Très 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 content.
Le chou-fleur est aussi.
Dans un instant, le tour de table.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Il est 17h18, je dis l'heure parce que peut-être que vous êtes à l'affût d'un train pour rentrer de vacances, rentrer de long week-end du 15 août, que vous attendez le bon moment pour partir en voiture. Vous restez avec nous, les vraies voix, ce soir. Alors c'est du lourd, Olivier Dartigol, chroniqueur politique, Nicolas Jeannetet, directeur Les Centristes, élu au Conseil de Paris, et puis Aymeric Guisset, secrétaire général adjoint du think tank du Millénaire. Donc c'est du lourd parce que ces gens-là vont vous donner leur point de vue, vont partager avec vous, vont aussi questionner nos experts. Et le premier expert à répondre, ça sera 17h30, sur la question des trains, justement. Faites-vous confiance aux trains ? Vous y allez ? Vous y êtes ? Vous vous apprêtez à ? Eh bien, on répondra à cette question. Vous êtes les bienvenus. Donnez votre avis sur le compte Twitter et Facebook de Sud Radio. Vous dites oui, vous dites non, vous faites confiance ou pas. C'est à vous de nous dire. Et le principe aussi, c'est que chaque vraie voix a son... Alors, ce qu'on appelle son tour de table... Ton point de vue, un sujet d'actualité qui lui tient à cœur. Eh bien, on commence avec le premier d'entre eux.
Buenas tardes, amigos.
Vous, juste petite blagounette, tiens, qu'on m'a raconté ce week-end.
Mais non.
Qu'est-ce que c'est qu'une douche sans eau ?
Je sais même plus.
Une douche.
J'ai rien compris.
Le tour de table.
De l'actualité.
Il arrive encore à nous faire rire, Philippe David, dans les jingles. Voilà, on le salue, il est en vacances, il reviendra très vite ici. Aymeric Guisset, c'est à vous de dégainer en premier. Vous vous intéressez aux GAFAM, alors je le rappelle, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Récemment, c'était au mois de mars dernier, l'Union européenne s'est dotée d'un bouclier législatif, règlement des marchés numériques, on appelle ça le Digital Market Act. Le Conseil constitutionnel a planché, vous ouvrez le débat, on reste finalement dans ce qui était tout à l'heure aussi notre question de fond, Internet et tout cela, quoi.
Exactement, coup de cœur pour la décision du Conseil constitutionnel qui valide la proposition de loi d'obligation de retrait par les plateformes des contenus terroristes en moins d'une heure. C'est un coup de cœur parce que finalement, on s'aperçoit que les GAFAM ne dictent plus leurs lois. Longtemps, la France et l'Europe ont été perçues comme démunies face à la superpuissance et au lobby des GAFAM. Et finalement, l'Europe, la France commence à prendre la mesure de l'importance de ces plateformes et d'Internet finalement dans nos vies. Et souvent, finalement, on a eu une crise démocratique a été accentuée par ce phénomène d'abandon et de fait que c'était plus les entreprises privées qui dictaient leurs lois que véritablement les responsables politiques qui prenaient leurs responsabilités face à ces méga-entreprises, à ces multinationales plus puissantes que des États. Cette décision, elle est replacée dans une série de décisions qui marquent une reprise en main de son destin par l'Europe et par la France. Vous avez parlé du Digital Act, il y a aussi les taxes sur les GAFA, cette décision et également l'imposition d'un chargeur universel en 2024, où finalement l'Europe s'est opposée à Apple pour les téléphones portables. Ce signal, il est encourageant parce qu'il faut regarder ce qui se passe à l'échelle du monde en termes de mutation globale. Le 21e siècle, il se caractérise par une nouvelle forme de conflictualité, de nouveaux conflits. Avant, on avait des conflits entre États. Ensuite, on a eu, avec des groupes terroristes, des conflits entre des États et des groupes non étatiques. Et maintenant, on a finalement des groupes privés qui sont capables de concurrencer les États et de se substituer aux États dans leurs fonctions essentielles. On peut imaginer que demain, Facebook soit un acteur de la sécurité privée et que finalement, notre sécurité soit privatisée.
Avec leur base de données, ils en ont le pouvoir.
Ils en ont le pouvoir, en tout cas. Et donc, lorsque l'État est défaillant, les acteurs privés peuvent s'y substituer. Et c'est dangereux et il y a un rôle finalement pour la puissance publique, de prendre sa part et de réguler le pouvoir des GAFA. Et pour l'Europe, quelle est la solution et quelle est la voie à construire? Parce que finalement, entre le modèle de la toute-puissance des GAFA des États-Unis et celui de l'utilisation des grands groupes pour établir un contrôle social comme en Chine, il faut construire une troisième voie, parce que les deux modèles ne sont pas acceptables. Et cette troisième voie, c'est celle de créer un Eldorado numérique et démocratique pour permettre de construire un espace numérique qui soit en lien et en cohérence avec nos valeurs.
Qui propose ça?
Je pense que nous, notre think tank, on le propose. Et je pense que l'Europe doit y aller et doit continuer dans cette voie. Et coup de cœur, pourquoi? Parce que ces premiers pas, qui sont des premiers galets dans la construction de cet écosystème-là, vont dans le bon sens. Parce que finalement, ce à quoi on doit arriver, c'est finalement bénéficier des avantages du web libre, mais sans avoir la superpuissance des GAFA qui ont accès à des datas sur nos vies absolument ahurissantes et qui vont pouvoir par la suite poser un problème d'un point de vue démocratique dans l'influence qu'ils vont avoir sur nos vies.
Les autres vraies voix réagissent et échangent évidemment avec Aymeric Guisset. Nicolas Jeanneté ?
Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Quand on pense que toutes nos données, effectivement, quand on prend je prends un exemple d'un site Nation Builder, une plateforme dont beaucoup de partis politiques, moi le premier, utilisent, les données sont stockées aux États-Unis. Et les Américains peuvent en faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, on ne dépend pas de la législation française, on dépend de la législation américaine. Donc il y a quand même beaucoup de chemin à faire.
Et les Américains ont une loi pour pouvoir aller chercher les données dans les groupes privés. Donc même si vous avez des, ce qu'on appelle des CGU, des entreprises qui disent qu'ils vont protéger vos données, le Congrès peut faire appel et aller chercher les données qui les intéressent. Donc vous n'êtes pas protégé en fait avec vos données à l'étranger.
Et quand je pense que le gouvernement a failli confier le stop Covid à Microsoft, et donc toutes nos données médicales auraient été envoyées aux États-Unis. Donc déjà, il faut qu'on fasse un peu, qu'on balaye chez nous. Après, effectivement, qu'on ait un Eldorado, une barrière européenne. Moi, je suis bien sûr, on est tous d'accord, et on peut être d'accord, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Ouais. Ça pose des problèmes pour toute l'industrie des médias, par exemple, mais aussi de la culture sur la propriété intellectuelle.
C'est un enjeu crucial sur ces GAFAM, c'est un enjeu qui se joue aujourd'hui.
Olivier Dartigolle.
C'est un enjeu vraiment crucial parce que ça éclaire vraiment un choix de civilisation, un choix de société. C'est-à-dire, si on bascule dans un modèle ou un autre, nos vies seront différentes. Il faut bien se dire que ces GAFAM, ce n'est pas les monopoles à l'ancienne, tels qu'ils pouvaient fonctionner. Là, il y a véritablement, c'est la première fois qu'il y a une invasion de la vie privée. C'est sans commune mesure avec ces données personnelles qui sont recueillies et tout ce qu'on avait pu vivre par le passé. Leur prochain Eldorado, leur prochain challenge, c'est même accéder à nos émotions.
Grâce aux nombreuses bases de données, justement.
Vous vous rendez compte, donc c'est une invasion de l'intime, du privé, de consubstantiellement de ce que nous sommes.
Bon, alors, lui, il est sensible quand il y a du rose sur une photo, par exemple. Ça peut très bien être ça.
Oui,
alors, oui, je suis d'accord. Quand on like, comme un coup de cœur sur quelque chose, donc il est enregistré.
Voilà. Je suis d'accord avec ce qui nous a été présenté sur le fait que le rapport de force commence tout juste à se construire. C'est un peu balbutiant. Commence tout juste à se construire par l'échelle européenne, tant mieux. Certains États aussi, mais
ce qui est nécessaire.
Mais on voit bien qu'il faut une réponse d'ensemble.
Ouais.
Reste à savoir maintenant si les citoyens vont pouvoir un peu réfléchir sur leurs pratiques, sur leur usage, pour justement aussi contrôler, pour que tout ça ne parte pas à volo et que les citoyens ont aussi besoin de réfléchir à là où nous en sommes, pour peut-être aussi pouvoir rectifier leur usage et comportement.
Oui, ouais, mais Olivier, tu vois bien que quelques essais ont été faits avec des réseaux sociaux français. Des plateformes françaises, c'est des comptes. Oui, mais... Finalement, ça n'a jamais marché. On peut pas rivaliser face à des géants américains qui sont présents dans le monde entier.
L'Europe a loupé le coche du développement de géants du numérique.
Elle est en train de reprendre la main, non?
On ne rattrapera pas les Américains. Quand vous regardez finalement les milliers de dollars, les milliards même de dollars qui sont générés par ces entreprises, ils auront toujours un coup d'avance. Donc le seul levier qui reste à l'Europe, maintenant, c'est le levier réglementaire. Il y a ces acteurs, maintenant, ils sont sur le terrain, ils sont dominants, ils sont en situation de monopole, d'ultra-monopole. C'est comment la puissance publique fait pour engranger le rapport de force et finalement avoir les réseaux sociaux que l'on souhaite et avoir les gens du numérique que l'on souhaite en Europe. Et c'est plutôt réussir à réguler.
Ce qui est important peut-être pour synthétiser, pour comprendre, pour nous tous, nous qui écoutons Sud Radio ce soir, c'est que en fait, cette mainmise permet de faire sauter tous les verrous qui garantissaient un équilibre de la propriété intellectuelle dans nos sociétés. En fait, c'est ça l'idée.
Vous avez ça, et puis aussi vous avez une question vraiment démocratique, où globalement le modèle économique des réseaux sociaux implique globalement un phénomène de bulle, où vous avez vers une archipélisation, ce qu'avait expliqué Jérôme Fourquet à l'échelle du territoire, vous allez aussi l'avoir à l'échelle numérique, c'est-à-dire une archipélisation de la société, où finalement les communautés ne se parlent plus, vous allez avoir une montée de la polarité et des tensions, et ce qui est dangereux d'un point de vue démocratique. En plus, vous avez aussi l'utilisation, comme ça a été rappelé par Olivier D'Artigol, la question de vos émotions avec les données, une question de libre-arbitre qui peut même être se poser tellement...
L'influence des votes sur certaines élections, il y a eu des scandales.
Du micro-targeting avec vraiment... Vous n'allez pas avoir la même information que votre voisin exprès pour vous influencer dans un sens. Et c'est toutes ces questions-là auxquelles l'Europe doit se pencher et apporter des réponses.
Petit exemple drôle, j'ai la joie aujourd'hui de faire une première émission avec Nicolas Jeannetet. Nous nous sommes appelés pour préparer l'émission. Je l'ai donc appelé sur mon téléphone. Eh bien, je suis sûr que ce soir, en regardant mon Facebook, j'aurai une suggestion d'amis.
J'espère bien, d'ailleurs.
Vous pouvez être amis avec Nicolas Jeannetet. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu enregistrement échanges téléphoniques. Et bah, c'est terrible. Bon, mais c'est passionnant. Merci pour ce premier tour de table, Aymeric Guisset. Vous restez avec nous dans un instant, 17h30, compte Twitter, compte Facebook, 0826 300 aussi, les auditeurs de Sud Radio. Vous répondez à cette question. Faites-vous confiance au train.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
C'est un grand plaisir de vous accompagner en ce 15 août, les vraies voix, avec le premier grand débat. Faites-vous confiance au train? Eh bien, pour l'instant, c'est partagé. Vous dites oui à 43%, non à 57% sur le compte Twitter. Continuez. Hein. Nous en parlons avec nos trois vraies voix, Olivier D'Artigol, Nicolas Jeannetet et Aymeric Guisset. Et nous avons toujours un grand témoin pour comprendre cette problématique. Nous l'accueillons. Il s'agit d'Emmanuel Grondin, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Bonsoir Emmanuel Grondin.
Bonsoir.
Bon, vous êtes prêts? Allez, on se met dans l'ambiance. C'est parti, musique.
Les vraies voix Sud Radio.
Diane Tell n'avait pas écrit cette chanson pour les trains, mais enfin, ça pourrait s'appliquer. Trop cher, plein, pas ponctuel, même si le train demeure le moyen de transport préféré des Français. Voilà en substance ce que les Français disent de notre train. Alors moi, à titre personnel, il me fait rêver ce moyen de locomotion. C'est tellement beau, un train. Mais enfin, quand, par exemple, le gouvernement réfléchit à l'évolution, à la SNCF, il évoque la question de l'amélioration de l'info aux voyageurs, par exemple. Quand la SNCF dit qu'il va falloir avancer, il demande 100 milliards au gouvernement pour permettre d'avancer clairement sur les questions de rénovation de voies, de caténaires, des postes d'aiguillage, rénover 8700 km de voies de service, du nouveau matériel roulant, rénovation des gares, création de réseaux du type RER dans les grandes villes. Tout ça, ce sont de vrais enjeux. Et ces enjeux évidemment, vous les suivez de près, Emmanuel Grondin. Quand la SNCF dit, là, fin juillet, il nous faut 100 milliards, c'est vrai, c'est possible?
j'ai envie de vous dire, ils demandent. Hein. Oui. Voilà. Après, c'est possible, je ne sais pas. Je ne pense pas. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le train, je pense que les usagers peuvent avoir confiance au train. C'est un moyen de transport qui est écologique, un moyen de transport qui est fiable, un moyen de transport qui est sécuritaire. C'est un moyen de transport qui appartient à tous les Français. C'est un service public pour nous. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant et essayer de faire en sorte que ce soit le mieux utilisé possible et le mieux géré possible pour que ça coûte le moins cher possible et que ce soit le plus efficace possible.
Bon, plus de 18 millions de billets vendus cet été, on approche de chiffres records, hein. On y est encore, donc ça va encore monter, mais des réactions, évidemment, il est à votre disposition, cher Vraie-Voix, notre expert SNCF, Emmanuel Grondin. Première question, peut-être, pour Olivier Dartigolle, première réaction, vous faites confiance au train, vous êtes venu en avion aujourd'hui.
Oui, mais ouais. Malheureusement, Bordeaux, Paris-Bordeaux, c'est 2 heures.
Oui.
Mais après, Bordeaux-Pau, il faut rajouter 2 heures et demie.
Et vous, pas de Pau, vous venez
et
de Pau.
On a, ouais. Ça, c'est une lutte des cheminots. On a aussi besoin d'une rénovation du tronçon Dax Pau, la voie a vieilli.
Dax par laquelle on allait avec la Micheline, hein, oui. D'où Micheline Dax. C'est très,
très bien.
C'est très drôle.
Mais j'ai beaucoup pris le train dans ma vie. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai des copains cheminots. Il faut bien dire que le train a été malmené, le ferroviaire, au cours des dernières décennies, au nom de choix budgétaires. Que ce soit pour les voyageurs, mais aussi le fret, qui est un grand chantier d'avenir, d'après moi.
Ah oui.
Rappelez-vous quand même, je prendrai qu'un exemple, que la première fois que le nom de Macron a résonné dans le débat public, c'était pour mettre les gens dans des bus et les sortir des trains. Voilà. Donc, il faut bien voir la
Il y a eu d'autres thèmes sur lesquels on a parlé de lui au tout début.
Oui, mais c'est la première fois. Les bus Macron.
Les bus Macron.
Ouais,
il était ministre de l'économie à l'époque.
C'est la manière dont les gens ont commencé à faire sa connaissance.
Ça a pas très bien marché,
d'ailleurs. Je pense qu'il y a besoin d'investissements. Pour les lignes, pour le matériel, pour les gares. Je pense qu'il y a besoin d'une véritable ambition ferroviaire. Regardez ce génie français. Moi, chaque fois, la carte du maillage ferroviaire est une carte qui me touche beaucoup. De voir combien on a été capable dans notre pays de livrer ces ouvrages, le travail des techniciens, des ingénieurs, des cheminots. C'est un très grand savoir-faire français. Mmh. On a besoin de reconquérir une ambition pour le siècle qui vient sur ce terrain-là.
Peut-être sur ce thème d'Olivier Dartigolle, question à Emmanuel Grondin. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui peut-être la force numéro 1 du réseau ferroviaire français, de la SNCF? C'est quoi le point fort? On dit souvent les lignes à grande vitesse, le TGV, c'est ça?
Alors, les lignes à grande vitesse, c'est plutôt l'endroit où on met le plus d'argent.
Ouais.
C'est pas forcément l'endroit où on est les plus forts et les plus compétents. Par exemple, pour vous donner un exemple, la ligne SNCF qui transporte le plus de voyageurs, c'est la ligne B du RER, et c'est 1 million de voyageurs par jour.
Ouais. Mmh.
1 million de voyageurs par jour.
Qui part du nord et qui arrive au sud de l'Île-de-France, hein, en passant par Paris.
Qui dessert en gros tous les aéroports parisiens.
Ouais.
Cette ligne, 1 million de voyageurs par jour, c'est 1 million de voyageurs par jour, c'est à peu près tous les voyageurs qui prennent le TGV pendant l'été. Mmh. Voilà. Et en fait, il y a des lignes où on transporte 1 million de voyageurs par jour. Voilà, tous les jours de l'année.
Ouais.
Bon. Donc, il y a un grand savoir-faire de la part des cheminots. Et quand on demande, cette ligne-là, par exemple, je prends cette ligne-là, par exemple, qui est la ligne la plus fréquentée de France. Cette ligne-là, le matériel qui roule sur cette ligne, c'est du matériel qui date de 1979.
Mmh.
Voilà, donc le matériel qui roule aujourd'hui sur la ligne la plus fréquentée de France, où il y a 1 million de voyageurs par jour, c'est, ça date de 1979, en fait.
Et on va dire que pour la plupart des touristes qui arrivent, cette ligne B du RER commence pour une de ses fourches à Charles de Gaulle, à l'aéroport, et que finalement, c'est le premier contact aussi visuel avec la technologie, bon, qu'au dire de ceux qui prennent le taxi et qui arrivent à Porte de la Chapelle. Mais enfin, c'est autre chose. Alors, réaction sur ce sujet aussi, Aymeric Guisset, vraie voix.
Moi, j'ai confiance dans le train, d'autant qu'en plus, le TGV est un des grands succès gaulliens. On parle que c'est encore des trains qui datent de 1969 qui sont en circulation. Moi, je pense que le train, on doit avoir une ambition industrielle aussi pour le ferroviaire. C'est-à-dire que là, on parle de 100 milliards d'euros d'investissement nécessaire. Au titre de comparaison, le plan France Relance, donc suite au Covid, c'est 100 milliards d'euros aussi. Donc, c'est sur toute l'économie française. Donc, si on veut véritablement pouvoir faire des investissements, renouveler le réseau qui est vieillissant, hein, il y a besoin de renouveler le réseau, il faut que ce soit accompagné d'une ambition industrielle, d'avoir un succès industriel, donc investir dans le train de demain, pour ensuite pouvoir exporter et avoir les moyens de financer cette transformation.
Clément Beaune, le ministre délégué des Transports, dit que ça sera 3 milliards par an chaque année, et notamment pour éviter le vieillissement du réseau. C'est ça la réponse aux demandes de 100 milliards du PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou.
Ça c'est le colmatage, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire, finalement, la canicule, vous avez des caténaires du matériel qui juste se détériorent, et sinon, vous avez des lignes de train qui ne seront plus assurées. Donc, c'est le minimum. Je crois que même le ministre a dit qu'il y avait 50% des 100 milliards qui seront plutôt de fonds privés et des 50% de fonds publics. Mais ensuite, la réflexion qu'on doit avoir, c'est comment on fait pour vraiment avoir une ambition et plus seulement subir la rénovation et faire uniquement du colmatage, mais avoir une réelle ambition pour être en conquête, en faire un point industriel très fort, exporter et en faire un succès comme ça a été longtemps un succès industriel en France. C'est-à-dire qu'on a les compétences, on a les ingénieurs, on a a priori tout ce qu'il faut pour encore avoir une ambition dans le ferroviaire et en faire un succès industriel qui bénéficie à la fois aux voyageurs, mais aussi aux entreprises et à l'ensemble de la population.
Emmanuel Grondin, quand les usagers disent « ça ne va pas », il y a la question des horaires déjà. De plus en plus, le fait qu'on soit serré vous parliez du RER, de ces lignes de banlieue. Il y a aussi la question de la sécurité. Tout cela, on a l'impression que ça s'amoncelle.
Alors, ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'ai envie de rappeler à tous ceux qui nous écoutent, c'est que le transport ferroviaire, c'est un transport guidé. Le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on est tous sur la même voie et que quand il y a un train qui est en panne devant, et ben en fait, tous les trains sont en panne derrière.
Ouais.
Les gens ont du mal à comprendre parce que d'habitude ils sont en voiture et quand la voiture qui est devant eux est en panne, ils mettent leur clignotant et ils doublent. Moi en train je peux pas faire ça en fait. Du coup, dès qu'il y a un petit problème dans l'engrenage, c'est toute la machine qui coince. Mais partant de là, faut aussi se dire que les cheminots, ils arrivent à faire rouler beaucoup de trains quand même sans avoir de poussière dans l'engrenage et que ce qui est important, c'est de prendre soin de tout ce qui est infrastructure et c'est pour en ça, c'est ça surtout qui consomme beaucoup de finances, et que c'est qu'il faut que le réseau soit gardé en bon état, en fait.
Ouais. Alors, évidemment, bien sûr, Nicolas Jeanneté va prendre à son tour la parole, c'est le principe des vraies voix, mais vous réagissez au 0826 300 300, et Béranger, qui est en Dordogne, est avec nous. C'est bien cela, hein, c'est bien Béranger. Bonsoir Béranger.
Oui, bonsoir, vous m'entendez ?
Oui, très très bien. Vous êtes en Dordogne, alors quelle ville ?
Je suis pas très loin de Montignac-Lascaux.
D'accord. Donc, bon, Bergerac, Périgueux sont quelque part pas très loin. Alors, vous, confiance ou pas au train ?
Confiance, c'est-à-dire, comme vous l'avez évoqué pendant le débat, moi, je pense qu'on peut avoir confiance sur les grandes lignes parce que ça a été la priorité de la SNCF pendant les 10-15 dernières années. Je pense à la ligne Grand Est qui relie Paris à Strasbourg. Parce qu'il y a une partie d'ailleurs des institutions européennes à Strasbourg. Et sinon, ce que je vois, moi, c'est plutôt la désertification des petites lignes.
Ouais.
Je vois encore, je vous donne des exemples très concrets, hein, mais entre Brive, La Gaillarde et Bordeaux, vous avez encore des lignes qui fonctionnent avec des moteurs diesel, quoi, qui ne sont même pas électrifiés. Et ça, enfin, quand même, je veux dire, c'est pas un confort qui est très supportable, voilà, vu le budget que représente la SNCF et ce que que met l'État. Donc moi, les choix, ils ont été faits, je le répète, c'est juste pour ça que je voulais intervenir, ils ont été faits en faveur des grandes lignes et des grandes métropoles, mais ça a contribué à la désertification et à l'abandon du milieu rural, et où pourtant les gens, croyez-moi, vont pas tarder à revenir, parce que ça se voit depuis le premier confinement, il y a des endroits qui revivent un peu, et les infrastructures, elles y sont pas, donc il va vraiment falloir s'en occuper dans ces prochaines années, au plus vite.
– Et concrètement, Béranger, vous nous appelez de la Dordogne, bon, c'est un endroit que je connais pas mal, les gens de Bergerac, quand ils vont à Paris, par exemple, jamais ils prennent le train. Alors si, il faut se faire emmener à la gare de Libourne ou de Bordeaux, et après, il y a le train. Mais du coup, ils sont tentés de prendre la voiture. Vous confirmez ou pas ?
Tout à fait. La voiture, voire l'avion. Alors, je connais moins l'avion également, mais ouais. C'est-à-dire que dans le sens est-ouest, par exemple, la Dordogne, qui est un très grand département, c'est l'enfer. Pour aller vers Bordeaux, c'est très compliqué. Donc, ou alors, ça prend des heures que ça ne devrait pas, parce qu'en train, on n'est pas censé mettre 3h30 pour faire un Sarlat-Bordeaux. Enfin, je veux dire, c'est lunaire. Donc, il faudrait vraiment que voilà, la SNCF réoriente une partie de ses crédits vers les petites lignes, en se disant que de toute façon, les gens vont revenir habiter dans les campagnes. C'est évident, il faut absolument anticiper cette chose-là.
Merci Béranger de nous avoir donné votre opinion. Je le rappelle, hein, sur le compte Twitter de Sud Radio, pour l'instant, vous dites non, vous ne faites pas confiance au train à 57%. On est resté, on est monté à 58, là on redescend à 57. On retrouve Emmanuel Grondin qui est avec nous, je le rappelle, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Une réaction de Nicolas Jeanneté, vraie voix, puis peut-être une question à notre invité.
Oui, aussi. Moi je suis totalement d'accord avec cet auditeur et je vais m'être plus sévère. Je pense que le TGV a tué la SNCF. On a tout misé sur le TGV, sur les grandes lignes, et on a complètement délaissé. Alors c'était le fleuron de l'économie française au niveau européen, on en était fiers, mais on a tellement misé budgétairement sur ce TGV, qui est d'ailleurs devenu un peu dépassé maintenant. Hein. Aujourd'hui, on a des petites lignes qui sont complètement... Et puis...
Tu es pas quand même, parce
que... Ouais. Réseau, le SNCF Réseau est dans une situation lamentable. Et là, il y a eu un accord qui a été signé entre l'État et SNCF Réseau, seulement pour 2,8 milliards. Et si je prends les chiffres en Allemagne, c'est 86 milliards. Et l'Italie, c'est 179 milliards sur 10 ans. Donc on voit qu'on est complètement à la traîne là-dessus, et qu'aujourd'hui, si on n'a pas des rails bien entretenus, neufs, etc., on ne pourra jamais avoir de petites lignes. Et c'est aujourd'hui le gros problème. D'ailleurs, le président de la SNCF, le PDG de la SNCF, disant qu'il fallait effectivement 100 milliards. Mais enfin, il a obtenu que 2,3 milliards du gouvernement. Donc je pense qu'il faut que ça devienne une priorité. Et moi, j'adore le train, à tel point que j'ai sauté dans mon salon de joie quand j'ai appris qu'il y avait le retour des trains de nuit. Moi qui habitais 12 ans à Berlin, et que il va y avoir bientôt l'ouverture du Paris-Berlin par le train de nuit. Mais je vais y aller tout de suite parce que c'est génial. Voilà. Ouais. Donc le train, on l'aime tous, mais ça n'a pas été une des priorités du gouvernement ces dernières années.
Les trains de nuit et les filles à soldats, comme chantait Charles Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Alors, ça réagit, les deux vraies voix veulent réagir, mais Emmanuel Grondin, à ce que vous venez d'entendre, constat donc d'un manque de tout pour, on va dire, le quotidien de la consommation du train. C'est ce quotidien qui pose problème. Emmanuel Grondin.
Oui, pardon. Oui, c'est ce quotidien effectivement qui pose problème. Mais moi j'ai envie de dire aux usagers, il faut qu'ils gardent confiance au train. Le train, c'est vraiment un moyen de transport très, je le redis, super écologique et c'est vraiment un transport public. J'allais dire communautaire, peut-être pas communautaire, mais c'est un endroit commun où les gens sont transportés, en fait. Et il faut se battre pour ça, et il faut se battre pour avoir des... Donc, pour que les lignes puissent fonctionner normalement, il faut se battre pour que les voies soient entretenues et les caténaires soient entretenues. Et puis aussi, il faut aussi rappeler que il y a une grande partie du fret qui a disparu par choix politique. Parce que...
Alors, Voilà, je voulais y venir, parce que Olivier d'Artigol en a parlé, il a lancé ce dossier. Aujourd'hui, si on veut préserver la planète, les émissions de gaz à effet de serre, c'est plus possible l'autoroute A1 avec 150 camions tous les 10 kilomètres. Pas possible. Vous y revenez, Olivier d'Artigol, vous l'avez dit tout à l'heure, ça c'est un enjeu crucial, mais il faut que les voies arrivent dans les entreprises, par exemple, pour le fret.
Ouais. Oui, c'est une bataille acharnée, je vois ce qu'il a fallu mobiliser comme énergie sur le Perpignan-Rungis. Alors que tout le monde voit bien, pour des questions d'écologie, de lutte contre le réchauffement climatique, que ces murs de camions, et je viens d'une région où on les connaît bien, notamment entre Bordeaux et la frontière espagnole,
ah oui,
sur la 10, que ces semis devraient être sur des trains. Voilà. Le fret ferroviaire a été véritablement, massacré dans les dernières années. Il y a tous ces phénomènes de métropolisation qui font écho au choix du TGV, aujourd'hui des lignes à grande vitesse, qui ont en effet asséché les lignes secondaires, le train du quotidien. Je termine par une anecdote, vous vous rendez compte, les cheminots ont dû se mobiliser à Pau, préfecture des Pyrénées-Atlantiques, pour garder un accueil en guichet ouvert et qu'on n'ait pas uniquement les bornes automatiques. Vous vous rendez compte.
Émeric Guisset veut réagir.
Et un problème aussi tarifaire. Ouais. Ouais. Quand vous comparez que vous voulez faire un voyage,
l'avion
si
peut coûter moins cher.
Avion SNCF, il y a aujourd'hui un gros problème
cher,
tarifaire.
Émeric Guisset.
Je vais apporter deux nuances et je vais lancer une polémique.
Et ça sera notre conclusion.
Allez-y. Exactement. La première nuance sur ce qui a été rappelé sur la question du fret, on avait pris l'exemple de l'Espagne, il y a une contrainte technique qui explique notamment le choix des rails, le choix des semi-remorques, c'est que les rails espagnols ne sont pas les mêmes que les rails français.
Voilà, premier exemple.
Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand vous voulez prendre des conteneurs, par exemple, qui arriveraient par bateau de l'autre bout du monde et ensuite les poser sur des rails pour faire, en gros, le transport terrestre par voie, vous n'avez pas les infrastructures qui sont adaptées et pas les bons trains, les bons wagons pour poser les...
Et la polémique, donc.
Et la polémique, il y a une question sur le prix. Moi, j'attends l'ouverture du marché à la SNCF.
Ça n'a jamais été bon pour le prix.
Ça n'a jamais été bon pour le prix au Royaume-Uni.
C'est bizarre.
Et le Royaume-Uni, d'ailleurs, revient sur la privatisation. Le Royaume-Uni revient sur la privatisation. Ça a été une expérience catastrophique.
C'est passionnant et on entend votre passion. Juste en un mot, Emmanuel Grondin, pour conclure, vous êtes contre l'ouverture à la concurrence?
En fait, moi, je suis pour un service public de qualité. Et pour moi, pour qu'il y ait un service public de qualité, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Pour moi, le train, je vous le redis, c'est un bien commun à tous. Tous ceux qui prennent le TGV, tous ceux qui veulent voir moins de camions sur la route et plus de containers sur les trains. Je rappelle juste une chose, par rapport au fret. C'est pas comme si on avait inventé l'eau chaude. Le fret, ça existait avant. Avant, il y avait un truc qui s'appelait le wagon isolé. Le wagon isolé, ça veut dire que la SNCF, elle amenait un engin chez un client, récupérait juste un wagon. Elle allait au client suivant récupérer deux wagons, elle au client suivant récupérer trois wagons, et ça on a arrêté complètement, comme on a arrêté les trains de fret entre Rungis et le sud. Là on l'a remis, mais on a perdu un nombre considérable de clients qui voulaient passer par le train, qui voulaient pas passer par la route,
et
on a dit non, on veut plus de vous, en fait, vous êtes pas assez rentable, vous nous rapportez pas assez d'argent.
Et il faut les récupérer. Merci Emmanuel Grondin pour nous avoir éclairé. On est tous passionnés de train, on l'a compris là autour de la table. On reste à 57 qui font pas confiance, 57% contre 43, c'est une consultation comme ça. Allez, bon courage si vous prenez le train, et puis bon moment à passer aussi, parce que c'est quand même sympa. Dans un instant, un autre gros beau moment à passer. On fait des rencontres. Et là, on va vous rencontrer sur des questions d'actualité. C'est le jeu de l'actualité dans un instant. Les vraies voix, là, vous allez être sous pression. Là.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Qui sera le roi de l'info ce soir ? Nicolas Jeannetet, Olivier Dartigolle ou Émeric Guisset ? Vous jouez avec eux, évidemment, vous les auditeurs de Sud Radio. Trois petits sujets d'actualité que je vous propose. Chacun choisit son sujet. Hein. Vous dégainez le plus vite possible, on y va. Il y a les championnats d'Europe omnisports en ce moment. Plus une médaille pour les Français. Un petit questionnaire sur les sports aux championnats d'Europe. Là. L'Iran, à l'origine de la fatwa contre Salman Rushdie. On aura un petit questionnaire sur l'Iran. Et puis, je n'oublie pas que beaucoup d'entre vous prenez un livre pour les vacances, alors les grands classiques des livres. Allons-y, on choisit. Qui prend quoi ? C'est parti.
Je vais prendre le sport. J'ai vu que mes collègues n'étaient pas
motivés par le thème. Émeric Guisset pour le sport. Olivier Dartigolle.
Les livres.
Les livres pour Dartigolle. Les livres et l'Iran pour l'ami Nicolas. Allez, c'est parti. On commence par le sport.
Tout donner, toujours se relever, toujours recommencer, interdit d'abandonner.
C'est bien, hein, soprano, ça. Attention, on est prêt. Émeric Guisset, je vous donne le nom d'un ou d'une sportive et vous me donnez la discipline. D'accord, ce sont vraiment des sportifs très connus. Discipline, des fois, on est obligé de préciser. Vous voyez ce que je veux dire. Attention, top, c'est parti. Laure Manaudou.
Natation.
Ça vous fait un point. C'est bon.
C'est facile.
Grégory Baugé.
Je ne sais pas.
Réponse à côté, ils ont dit que c'était facile, allez-y. Grégory Baugé, une fois, deux fois, trois fois, le cyclisme sur piste.
Ah
et
bah
qui est aujourd'hui entraîneur. Bah évidemment, je connais. Attention, on continue. Renaud Lavillenie. On précise, hein.
Alors, c'est du saut à la perche.
Oui, c'est du saut à la perche. Deux points. Cassandre Beaugrand, elle vient d'être championne d'Europe dans le relais mixte. Une fois, deux fois, trois fois.
Athlétisme ?
Non, vous ne l'avez pas. Ici, réponse, une fois, deux fois, trois fois. Le triathlon, messieurs, c'est magnifique comme sport. Émilie Le Pennec. Elle est dans la légende du sport français. Émilie Le Pennec.
Escrime ?
Non.
La marche ?
Non. Olivier Dartigolle ? Bah, faut donner un truc hein, au hasard.
Ouais, j'ai pas.
Oh, Olivier, il n'est pas joueur. Il est pas.
Non,
il est chouin. Gymnastique, la seule gymnaste championne olympique, Émilie Le Pennec. Arnaud Démare. Facile.
Bah, c'est la perche.
Vous ne dites rien. Arnaud Démare.
Je vais pas dire la perche, je vais dire le saut en longueur.
Non. Vous connaissez ce sport, Olivier Dartigolle. Arnaud Démare, il vient d'être vice-champion d'Europe. Le cyclisme sur route, le sprinter.
Ah oui,
Et enfin, Marie-Josée Pérec.
Oui. Athlétisme.
Oui, en l'occurrence, c'est... précision.
C'est le... Ouais, c'est la course.
La course à pied, c'est bon, top. 3 points, ce n'est pas énorme. Je suis un petit peu déçu, notamment sur Arnaud Démare pour certains.
C'est
3 fois plus que la dernière fois. Place maintenant au questionnaire sur l'Iran. C'est parti. Chanson iranienne, messieurs. Olivier Dartigolle, vous êtes prêts ? Attention. C'est Nicolas Jeannetet. C'est Nicolas Jeannetet.
Donc je n'étais absolument pas prêt.
Oui. Nicolas Jeannetet, attention sur l'Iran, top, c'est parti. Quelle est la langue officielle de l'Iran, qui vient de son ancien nom d'ailleurs ?
L'iranien ? Non.
Non.
Non,
vous ne l'avez pas, les autres ?
Le perse ?
Oui, le persan, précisément. Hein, c'était la perse avant. Émeric Guisset prend le point. Quelle est la capitale de l'Iran ? Nicolas !
Mais oui, je la connais.
Une fois, deux fois, trois fois. Top, qui répond ?
Téhéran.
C'est pour Olivier Dartigolle qui vient de se réveiller. Par quelle mer l'Iran est-il bordé, en plus des deux golfes Persique et d'Oman ? La mer ?
Égée.
Non. C'est la Grèce. Les deux
la
autres ?
La mer Noire ?
Non.
La mer Caspienne.
Oui, la mer Caspienne. Olivier Dartigolle, très fort sur l'Iran. Qui est...
Mais on est impressionné, on est sous tension.
Allez, c'est parti, Nicolas. Qui est le guide suprême de l'Iran actuellement ?
Ayatollah Khomeini.
Non, il est maintenant. Alors les autres ?
J'ai oublié son nom, oui.
L'Ayatollah, ça ressemble. Une fois, deux fois, trois fois, personne. Khamenei.
Khamenei.
Allez, on continue. Quel pays envahit l'Iran en 1980, Nicolas Jeannetet ? Quel pays envahit l'Iran en 1980 ? La guerre, Iran. Vous ne l'avez pas.
Irak,
c'est pour Olivier Dartigolle. Allez, concentration, Nicolas. En 2015, sur quoi portent les accords entre l'Iran et le groupe de 5+1 États-Unis, le nucléaire, très bien, Nicolas Jeannetet. Et enfin, la fête nationale et le jour férié, quel jour fête-t-on le nouvel an perse ? Un jour de l'année, le nouvel an perse se fête le... Vous ne l'avez pas, les deux autres ? Le 21 mars, top ! Voilà, on en est là. Pour l'instant, 4 points pour Émeric Guisset, 3 points pour Olivier Dartigolle et 1 point pour Nicolas Jeannetet. Voici le dernier questionnaire.
Bipède, volupteur de lyre, époux châtré de polymnie, vérolé de lune à confire, grand duc bouillon de librairie, maroufle, apprendre à l'examen, je reçois une
Léo Ferret. Ça, c'est absolument énorme. Je suis d'ailleurs obligé de parler dessus parce que c'est le jeu, puis on est pressé, mais on l'aurait bien écouté. Je vous donne un grand classique et vous me donnez l'auteur. C'est tout bête, mais c'est casse-gueule, effectivement. Alors attention, top, c'est parti. Le mariage de Figaro.
Bon marché.
Oui, c'est pour Olivier d'Artigol. Candide.
Voltaire.
Oh, il est là. Le bachelier. Le bachelier de...
Je l'ai pas.
Vous ne l'avez pas. Ici.
C'est pas vrai, on l'a lu tous pendant les...
Bachelier. Jules Vallès, le bachelier, oui, le bachelier de Vallès. Ouais. On continue avec vous. Triste tropique.
Vous voyez. Ah, je l'ai, mais... Lévi-Strauss.
Oui, Claude Lévi-Strauss. Il est là, Olivier d'Artigol. Il est en train de gagner. La gloire de mon père.
Oh, mais c'est bien sûr. Non, laissez, vous me le laissez.
Ouais, mais.
Vous
ne l'avez pas.
Non,
Marcel
Pagnol.
Marcel Pagnol, c'est pour Émeric Guisset. Ah oui, c'est le jeu. Le père Goriot.
Balzac.
Oui, c'est bon. Et enfin, le dernier, la peste.
Camus.
Ah oui, là, vous étiez obligé. Eh bien, Émeric Guisset a mis la pression 2, 4, 5 points, mais Olivier d'Artigol avec 2, 4, 6, 8 et devant Nicolas Jeanneté 1 point. Ce n'est pas Fanny. Bravo, messieurs, le journal dans un instant.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Les vraies voix ce soir avec Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, Nicolas Jeanneté, directeur Les Centristes, élu au Conseil de Paris et dans le 15e arrondissement. Bel arrondissement, hein, le 15e. Hein. Ouais. On est au sud, au sud-ouest.
C'est tout près d'ici.
Ouais, tout près.
On traverse la Seine, on y est.
On est dans le 16e, nous. Et puis Émeric Guisset, secrétaire général adjoint du think tank du millénaire. Ça marche bien ce think tank, hein. On vous voit partout, hein. Vous réfléchissez sacrément. Hein.
Réfléchis, puis on partage nos idées, donc c'est parfait.
Très bien, alors c'est un plaisir de vous avoir tous les trois. Olivier d'Artigol, j'ai pas développé parce que vous, on sait toute votre vie. Vous arrivez de Pau en avion, et ça c'est important.
J'ai envie d'être calme ce soir.
J'en profite pour vous dire, chers auditeurs de Sud Radio, qu'à 18h30, il y aura le deuxième grand débat avec la consultation qu'on vous propose toujours sur le compte Twitter et Facebook de Sud Radio. Vous pouvez intervenir au 0826 300 300. À 18h30, nous vous poserons la question: trouvez-vous logique que 80% des pompiers ne soient pas professionnels? Ben oui, parce que tout le reste, ce sont les pompiers volontaires. C'est quand même incroyable, c'est comme ça. On se posera la question ensemble avec vous. En tout cas, maintenant, c'est la suite de notre tour de table.
Bonjour les enfants.
Vas-y, de quoi tu veux qu'on parle?
Comme je ne connais rien au sujet, je pourrais être tenté d'en parler abondamment.
T'as quelque chose à dire?
Je suis Darmanin.
Je ne suis pas très éloigné de Gérald.
Ah bon?
Oui.
Le tour de table.
De l'actualité.
Profitons-en pour saluer Philippe Bilger, que vous avez entendu sortir une phrase énorme. Comme je ne connais pas bien le sujet, je serais tenté d'en parler longuement. C'est tellement fort.
C'était une phrase de Churchill.
Ah, il l'a reprise?
Oui.
Ah, très bien.
Non, il y a une phrase de Churchill en disant... j'ai pas eu le temps de préparer un court discours, alors je vais en faire un long.
Oui.
Parce que c'est vrai que c'est
joli,
très
aussi.
Dur de faire un discours court et incisif.
Ouais. Et
donc on n'a pas le temps de travailler, on fait un long.
Et la version Philippe Bilger était très très belle aussi, et nous saluons l'ami Philippe. Nicolas Jeanneté, c'est votre tour de table. Alors vous le constatez dans votre quotidien d'élu parisien, le problème de la variole du singe n'est pas sans rappeler celui qu'on vient d'avoir avec la Covid-19, et notamment la question du vaccin. Voici, alors c'est un tour de table, mais ça s'apparente vraiment à un coup de gueule de votre part.
Oui, juste un petit mot pour présenter. La variole du singe, c'est pas nouveau. C'est apparu dans les années 70 en Afrique et c'est parti d'un rongeur vers un être humain. Bon, et maintenant ça se transforme d'être humain en être humain. C'est une maladie qui se transmet essentiellement par voie sexuelle, mais aussi, attention, par contact rapproché, par la sueur, etc., etc. Il y a un énorme cluster qui a été décelé, qui est le plus important, ce qui est celui de la communauté homosexuelle, mais il y a un deuxième cluster qui est apparu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, dans une famille à Perpignan, dans un camping. On estime que, dans le monde, il y a 25 000 personnes qui sont contaminées dans le monde, mais l'OMS indique que ça va doubler chaque semaine.
Il y a à peu près... Ceux de notre génération, d'ailleurs, seniors ont été vaccinés contre la variole jeune. Ça,
je vais le rappeler. Je vais le rappeler. Il y a 2600 personnes contaminées chez nous en France. Il y en a 5000 en Espagne. D'ailleurs, l'Espagne a par exemple pris une mesure intéressante. Dans les boîtes de nuit, ils demandent maintenant aux gens de mettre des t-shirts et de ne plus danser torse nu l'été, parce que justement, le contact très rapproché fait que les gens puissent se courder. Alors moi, mon coup de cœur, il est sur plein de choses. D'abord, la France, encore une fois, a mis 2 mois à se saisir de cette question. J'ai été d'ailleurs un des premiers à râler au Conseil de Paris. 2 mois, c'est long. Parce que pendant cela, on n'a pas mis des campagnes de prévention, on n'a pas mis des campagnes de vaccination. Et à tel point que les médecins ont reçu des notes de l'arrivée du variole des singes 2 mois après. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut avoir des symptômes, le médecin généraliste qui ne connaît pas forcément la variole du singe, n'avait pas de notes à ce sujet et allait demander aux jeunes d'aller faire une prise de sang en se disant parce que c'est une MST. La variole du singe n'est pas une MST. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, il y a une opacité sur les stocks. Bon. Alors ça m'a toujours impressionné.
Stock de vaccins. Hein.
Stock de vaccins, alors. Parce que la variole est considérée comme une arme bioterroriste. On ne sait pas combien aujourd'hui il y a de vaccins dans les stocks. Alors, certains journaux ont cherché, et apparemment, il y aura à peu près soit entre 178 millions et 90 millions de doses de première génération. Pas la troisième, hein, pas la dernière, mais qui sont dans les stocks en France. Et on a appris récemment que la France vient d'acheter 1,5 million de doses de troisième génération chez le seul producteur qui est un laboratoire danois qui produit ce vaccin. D'ailleurs, interrogation, pourquoi on ne pourrait pas avoir quand même d'autres producteurs danois. Et puis, la priorité est donnée à 250 000 personnes, donc issues de la communauté LGBTQI+, mais j'ai envie de dire, et les autres, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que ça peut se transmettre beaucoup plus facilement.
Concrètement, Nicolas Janté, à Paris, j'ai entendu, il y a 5 pharmacies.
Non, deux.
Deux
il
seulement.
Il y en a 5 dans toute la... Alors, c'est le troisième problème.
Ouais.
Je ne comprends pas. L'ARS,
l'Agence nationale de santé, ouais.
Le ministère. On a gardé quoi de l'échec du début de la crise Covid ? Rien. Là, on a ouvert 5 pharmacies, dont 2 à Paris, pour des essais. C'est-à-dire que on n'a même pas décidé de dire « Allez, on ouvre 20 pharmacies directement, tout de suite, immédiatement. »
On teste, voir si la vaccination marche.
Non, on teste pour voir si ça marche dans les pharmacies. Ouais. Et en plus, il faut arriver avec une ordonnance du médecin. Donc, il faut d'abord passer chez le médecin pour aller ensuite à la pharmacie.
Ils sont tous en vacances en ce moment.
Faire un entretien de 10 minutes chez le pharmacien et ensuite être piqué. Voilà, je trouve qu'encore une fois... Et je suis en colère contre l'ARS, Santé publique France et même le ministère de la Santé de ne pas réagir plus tôt face à une pandémie qui est aujourd'hui la variole du singe.
Olivier D'Artigol.
Oui, alors vous vous souvenez, pendant la Covid, on nous parlait du monde d'après. On aurait quand même imaginé qu'on aurait pu au moins sur le terrain sanitaire, sur l'hôpital public, celui de la prévention, de l'anticipation. Ne pas revivre ce qu'on a vécu avec la Covid, les masques, les... D'abord, les cas doublent tous les 15 jours, au niveau mondial. Donc, on n'arrive pas, au plan international, à freiner la progression. Certains spécialistes parlent déjà de pandémie, d'autres sont plus mesurés.
Et de mutations.
Mais en tout cas, il y a un vrai sujet. Avec en effet des questions de mutation par rapport au berceau africain, sur la manière dont ça peut rebondir, réagir. On manque encore de moyens sur le séquençage, on manque de moyens. Donc il y a un clair-obscur que n'a pas levé à ce stade-là le nouveau ministre de la Santé, arguant en effet de questions classées sensibles en cas d'attaque bactériologique, puisque c'est de ça dont il s'agit. Le problème, c'est que sur les stocks de ces vaccins, on sait qu'ils avaient, pour la forme variole, des effets secondaires rudes, alors que là, nous sommes sur quelque chose de contagieux, mais de moins, j'ai envie de dire, de moins... Je ne peux pas dire moins sérieux, mais ce n'est pas la variole.
Oui, et d'autant que grâce au vaccin, c'est un peu le propos d'ailleurs,
plusieurs sujets, efficace. D'abord, qu'on retrouve la maîtrise de la production du médicament, c'est-à-dire qu'il va falloir reposer la question des Big Pharma, et que ça retrouver notre souveraineté sur le médicament et sa maîtrise publique. Ça devient un sujet maintenant incontournable. Et puis, les moyens sanitaires, des centres, des infirmières, des stocks, des vaccins, voilà.
Et des pharmacies.
Et des pharmacies.
Et Émeric Guisset, qu'en pense-t-il ?
Oui, tout à fait. Quand vous regardez la situation actuellement, vous avez en fait beaucoup de personnes qui souhaitent se faire vacciner parce qu'elles sont à risque, qu'elles ont des pratiques qui les prédisposent. Étant donné comment les clusters ont été identifiés, il y a une volonté de beaucoup de personnes de se faire vacciner. Et elles sont confrontées à un problème un peu comme au début du Covid, où finalement, elles ne savent pas où se faire vacciner, parce que c'est assez opaque en fait en termes de communication.
Donc, faut déjà trouver... L'histoire des pharmacies dont parle Nicolas, c'est affolant. Quoi.
Je pense que c'est l'exemple le plus éloquent. Ouais. Donc, il faut trouver un lieu, il faut trouver une dose, parce qu'en fait, vous êtes déjà... Nicolas pourra en parler, mais en fait, quand vous allez sur les sites pour prendre un rendez-vous, c'est déjà saturé pour au moins une à deux semaines.
Donc vous avez on a des rendez-vous en octobre maintenant sur l'Octolib.
C'est pire que je ne pensais en plus. Bon. Donc vous avez en fait toute une latence énorme. Et la question intéressante, c'est de savoir, et pour l'instant, on n'a pas les informations, à quel maillon de la chaîne on a un goulot d'étranglement et de saturation. Est-ce que le problème, il est en fin de chaîne sur l'ouverture ? Est-ce qu'il est vraisemblablement plutôt en début de chaîne sur la question de l'approvisionnement et de la production ? C'est cette question-là, tant qu'on n'aura pas réglé de. Où est vraiment le réactif limitant, si j'ai envie de dire. Et pour agir directement à ce point-là, pour pouvoir démultiplier les moyens, on aura un souci d'anticipation et il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a vécues il y a deux ans.
Le nouveau ministre de la Santé, on ne l'a presque pas entendu. On en a vu beaucoup d'autres, mais là, pour le coup, bon, il est arrivé comme ça. Bien reçu le coup de gueule. Et pour le coup, c'est vrai, en tournant dans tous les sens, c'est très énervant. 18h15, tout de suite après, on évoque l'un des gros sujets d'actualité de ce soir qu'on voulait vous suggérer. Issu d'un article du JDD ce week-end qui place le Maroc comme un pays clé pour la gestion des migrants. On en parle dans un instant. L'Europe, via l'Espagne, reçoit beaucoup d'immigrants en provenance de l'Afrique et il semble que le Maroc joue de plus en plus un rôle. On en parle.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Nous sommes avec nos vraies voix, Olivier Dartigol, Nicolas Jeanneté et Émeric Guisset. Et nous œuvrons donc ce fait d'actualité important qui a été initié par nos confrères du JDD dimanche dernier, qui posait la question, le Maroc, nouveau gendarme de l'immigration. Alors que se passe-t-il ? Des milliers de migrants passent par le Maroc pour atteindre l'Europe via l'Espagne, dans l'enclave espagnole donc de Melilla. Ils viennent du Soudan, du Tchad, de plusieurs pays et 1500 d'entre eux ont essayé de franchir en force la frontière le 24 juin dernier. Il y a eu des arrestations, une intervention des forces de l'ordre marocaines particulièrement musclées. 23 migrants ont été tués. Épinglés par l'ONU, Rabat rejette la responsabilité sur l'Algérie, le voisin, qui inciterait au trafic, selon, je cite, les Marocains. Derrière cela, il y a la tension entre l'Algérie et le Maroc, une tension sans précédent d'ailleurs au sujet du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, et l'Algérie veut l'indépendance donc de cette colonie espagnole. L'Espagne a fait amende honorable d'une certaine manière et a accédé à la demande du Maroc en soutenant le gouvernement marocain pour avoir, on va dire, la présence sur son territoire du Sahara occidental. Vous avez compris le phénomène ? Puisqu'il y a eu entente entre les Espagnols et les Marocains, alors les Marocains aident les Espagnols à empêcher les migrants de passer. Il y a des aides de l'Union européenne. Derrière tout cela, le conflit avec l'Algérie. Pour essayer de bien comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça, Michel Auboin, ancien préfet spécialiste de l'immigration, est avec nous. Bonsoir Michel Auboin.
Bonsoir.
Bon, j'ai essayé d'expliquer, alors très sommairement, parce que ça mérite beaucoup d'explications, mais vous êtes là justement pour nous expliquer. Le Maroc, dans cette affaire, semble pouvoir jouer un rôle important, comme par exemple la Turquie peut jouer sur les migrations en arrivant de l'Irak ou d'autres. Est-ce que le Maroc est en train de saisir une opportunité pour jouer un rôle sur la scène diplomatique internationale ?
Probablement oui, mais c'est pas très nouveau parce qu'en fait, vous l'avez dit parfaitement, l'Europe elle a des enclaves en terre africaine, Ceuta et Melilla en particulier. Oui. Je dis en particulier parce qu'il y en a d'autres, mais et donc c'est assez normal que les migrants qui viennent de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique de l'Ouest remontent jusqu'à la limite de ces deux enclaves pour passer cette frontière européenne. Parce qu'une fois qu'ils sont dans la frontière européenne, vous le savez, à ce moment-là, ils sont soumis aux règles sur la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace européen. Donc, c'est forcément un point extrêmement sensible dans la préservation de nos frontières européennes. Et objectivement, cette frontière est plutôt bien gardée par les Espagnols d'un côté, par les Marocains de l'autre. Mais les Marocains ont ici un rôle qui d'ailleurs est un peu le rôle que la France tient vis-à-vis de la Grande-Bretagne d'ailleurs sur le littoral de Calais, c'est-à-dire que ce sont les Marocains qui défendent la frontière de l'Europe, si je puis dire.
Ouais, voilà.
Et quand ils ont compris l'importance, puisque parfois c'est des centaines, parfois c'est des milliers, puis une fois ça a été 10 000 personnes qui sont passées dans la journée, donc quand ils ont compris, depuis qu'ils ont compris l'importance pour l'Europe, pas uniquement la France, hein, pour l'Europe de cette frontière, évidemment, ils en jouent comme un moyen de négociation avec l'ensemble de l'Europe.
Alors, évidemment, on en parlait, il y a aussi en ce moment cette tension entre l'Algérie et le Maroc, donc chacun joue sa partition, et le Maroc s'appuie un peu sur ce conflit pour tirer son épingle du jeu. Peut-être avant de vous poser... tout un tas de questions. Michel Auboin, réaction autour de la table. On commence par Aymeric Guisset. Réaction et questions peut-être.
Oui, première réaction, on voit que le Maroc est dans une situation paradoxale et plutôt avantageuse vis-à-vis de l'Europe. C'est-à-dire que c'est l'un des pays du Maghreb les plus stables, qui n'a pas connu les printemps arabes avec une telle intensité que les autres pays. Ça a été surtout des réformes sociales et pas eu de renversement de régime. Donc pour l'Europe, c'est un partenaire de choix d'avoir cette stabilité. Ça permet d'avoir des politiques sur le long terme et justement d'avoir des relations qui soient différentes. Et comme ça a été rappelé, il y a vraiment une frontière terrestre avec cette question des migrants à traiter. Si on veut garder l'intérêt de l'espace européen avec la libre circulation, ça implique d'avoir des frontières européennes qui soient bien gardées, où on ait le contrôle de nos frontières. Et ça va être difficile de ne pas avoir une relation de partenaire d'égal à égal avec le Maroc sur cette question-là. Sinon, on le voit, ça fonctionne très mal. Donc l'un des enjeux, c'est de construire une relation avec le Maroc qui soit forte, des deals qui soient intéressants, qui soient gagnant-gagnant, pour que véritablement, sur le long terme, ça tienne et qu'on n'ait pas une relation de vassal. Finalement, ça ne tiendrait pas. Parce que le Maroc a besoin de l'Europe, notamment sa relation avec l'Algérie, ça a été bien expliqué, pour finalement jouer de son influence plutôt territoriale, régionale. Et l'Europe a besoin du Maroc sur cette question migratoire, parce que l'Europe n'est pas capable de faire face aux flux migratoires. Peut-être une question pour notre expert. Comment on pourrait finalement décortiquer le contour du deal et comment on pourrait faire pour que justement on ait quelque chose qui soit faisable d'un point de vue du Maroc, parce que si c'est pour passer un deal avec le Maroc mais que finalement ça ne tienne pas et qu'on se retourne d'une situation de dépendance comme vis-à-vis de la Turquie, comment on peut véritablement dessiner le contour d'un deal qui soit gagnant-gagnant et qui ne mette pas l'un des deux parties prenantes dans une situation de dépendance?
Oui, on a parlé d'avantages que tire le Maroc, mais il y a l'avantage que tire l'Union européenne. Allez-y Michel Auboin.
Tout d'abord, il faut bien comprendre que derrière tout ça, on va avoir des négociations diplomatiques entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Or, une négociation diplomatique, vous savez, c'est beaucoup de facteurs à la fois. Donc on va sans doute parler, moi je ne suis pas dans le secret de ces négociations, mais on va sans doute parler de cette question des migrations, mais on va sans doute parler de toute une série d'autres sujets. Et si je prends la France, d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que, en même temps, il ne faut pas oublier que le Maroc est l'un des deux gros pourvoyeurs de migrants en situation irrégulière depuis déjà de très nombreuses années. Donc le Maroc lui-même nous envoie des migrants, en France en particulier, en Belgique, aux Pays-Bas. Et donc c'est assez compliqué d'engager une négociation sur les migrants qui viennent des pays d'Afrique subsaharienne et en même temps pas parler, alors pas tellement des migrants marocains qui viennent en France, mais du retour des migrants marocains en situation irrégulière qui font l'objet d'une mesure de retour vers leur pays d'origine et qui ne sont pas pris en compte par les autorités marocaines.
Les fameux accords évoqués récemment d'ailleurs par Gérald Darmanin. Ouais.
Voilà. C'est une négociation a cours depuis de nombreuses années et qui achoppe sur toute une série de difficultés. Alors, ceci dit, quand on prend les choses globalement quand même, on peut dire que heureusement que le Maroc tient la frontière et d'une certaine façon, il le fait aussi, enfin il le fait surtout pour l'Europe. Donc on peut pas jeter la pierre au Maroc dans cette affaire.
Ouais.
Il était évident il est évident. Et d'ailleurs, on aurait bien tort, puisque j'entends, on entend beaucoup de bons esprits s'offusquer des méthodes un peu brutales que le Maroc prend à l'égard de ces migrants. On aurait bien tort de fustiger le Maroc qui nous protège. Là où, pour l'instant, il faut bien dire, le dispositif de Frontex est encore assez faible. Oui. À vrai dire, l'Europe n'a pas encore mis tous les moyens nécessaires pour garder ses propres frontières.
Alors, Michel Auboin, c'est très clair. Je veux avoir l'avis de nos deux vrais voix. Messieurs, en essayant d'être assez concis, peut-être pour chacun d'entre vous, Olivier Dartigolle et Nicolas Jeanneté, ce que vous inspire cette situation. Allez, Nicolas Jeanneté.
Oui, votre invité parlait de brutalité de la police marocaine. Il faut savoir que le Maroc est une... destination récente pour les Africains subsahariens pour passer la frontière. Ce qu'il était pour eux impossible de rentrer au Maroc, c'était extrêmement compliqué. Mais depuis que la Libye n'est plus un passage très facile pour rejoindre l'Europe, effectivement, ils arrivent à passer par le Maroc. Mais il y a l'Algérie aussi, il y a la Tunisie. Le nombre d'étudiants tunisiens qui sont en train en ce moment de quitter la Tunisie pour se rendre en Europe est important. Moi, je trouve que derrière tout ça, il y a une grande hypocrisie. C'est un coup politique, c'est pour se donner une bonne image. Qu'ils commencent, et votre invité l'a dit, à reprendre les jeunes délinquants marocains, puisque vous savez qu'il y a des passeurs professionnels marocains qui repèrent des jeunes marocains qui sont sans domicile, qui sont orphelins, qui sont drogués, pour les emmener en France pour essayer ensuite qu'ils volent. Donc, qu'ils commencent à faire leur propre ménage et ensuite on verra.
C'est bien noté, Nicolas Jeanneté. Petite réaction aussi rapide, désolé.
C'est compliqué. D'abord, j'espère qu'on pourra débattre. J'espère qu'on pourra débattre des origines, de l'origine des migrations.
Oui.
De ce qui amène des Soudanais, des Tchadiens devant les fils barbelés, devant les murs tels qu'ils soient, et en l'occurrence là les seuls deux points de frontière terrestre entre le Maroc et l'Espagne, à Ceuta et Melilla. Bon, on peut en effet parler de la détresse humaine. Il y a eu 23 tués récemment. Donc c'est pas simplement dire on entend les belles âmes, ça reste quelque chose d'effroyable. On peut pas accepter ça. Le deal avec Erdogan avait été vraiment quelque chose de pas très fameux.
Turquie.
Voilà. Et après, il y aura dans les négociations beaucoup de choses. On voit bien la politique marocaine évoluer. Il y a la question du Sahara occidental. Il y a la question de la lutte commune face au terrorisme. Il y a la question de la drogue. Bon, il y a beaucoup de sujets. Je pense que le Maroc se repositionne pour rentrer plus fortement dans l'ensemble de ces sujets, en faisant sur la question migratoire un petit virage sur ce qu'était sa position avant.
Et je retiens, Olivier Dartigolle, que vous suggérez d'en refaire un débat. C'est ce qu'on refera. Merci vraiment, Michel Auboin. On voulait juste ce petit éclairage, mais finalement, avec vos informations et votre éclairage, on a envie d'en reparler et ça sera fait. Merci à vous, Michel Auboin, ancien préfet spécialiste de l'immigration. Merci à vous. Les vraies voix reviennent dans un instant. 18h30, c'est le vrai débat qui approche. Trouvez-vous logique que 80% des pompiers ne soient pas professionnels? Vous êtes déjà nombreux à donner votre avis sur le compte Twitter, Facebook. Alors continuez, puis 0826 300 300.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Les vraies voix ce soir, Olivier Dartigolle, chroniqueur politique, Nicolas Jeanneté, directeur Les Centristes élus au Conseil de Paris dans le 15e arrondissement. Et puis Aymeric Guisset, secrétaire général adjoint du think tank Le Millénaire. Voici le grand débat de 18h30. Vous êtes déjà nombreux à nous donner votre avis. Nous posons cette question. Trouvez-vous logique que 80% des pompiers ne soient pas professionnels?
Les vraies voix Sud Radio.
En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille.
On s'en lasse pas, hein, Sacha Distel.
A brûlé l'usine de café.
Et alors, ça c'est une chanson de rugbyman maintenant, hein, parce qu'ils reprennent ça, vous qui êtes un passionné de rugby.
Les fêtes du Sud-Ouest aussi.
Oui, les fêtes du Sud-Ouest. Oui, mais voilà, en ce temps-là.
Quelques souvenirs.
On entend les pompiers crier. Bon, les pompiers, on les aime tellement. C'est vraiment l'occasion de leur envoyer un gros coup de chapeau pour tout ce qu'ils font tout au long de cet été. Alors, je le rappelle, on peut devenir sapeur-pompier volontaire à 16 ans en France. Ils sont presque 190 119 000 à s'engager au service des autres en parallèle de leur métier ou de leurs études. Ils représentent, allez, presque 80% des sapeurs-pompiers de France. Solidarité, altruisme, bravo. Mais est-ce bien raisonnable pour un pays de compter sur la générosité pour assurer la sécurité de ses citoyens quand le réchauffement climatique nous place régulièrement face à des catastrophes naturelles? Pour nous donner son point de vue, le capitaine Patrick Blanchet, président délégué de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers volontaires et président de l'Union régionale de l'Ouest. Bonsoir, capitaine.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et je le rappelle et je le redis, bravo à vous et à toutes vos équipes.
Respect.
Femmes et hommes, voilà, on entend respect autour de la table. Merci à vous d'être là. Bon, on pose la question. Alors, je vais déjà vous amener sur un terrain. Moi, j'ai eu l'occasion sur d'autres plateaux de l'évoquer avec vos collègues. Rappelons que cette histoire de pompiers bénévoles, enfin volontaires, c'est le socle déjà du fonctionnement. Il ne faut pas l'oublier, hein.
Oui, tout à fait. Tout à fait, en complément de nos collègues sapeurs-pompiers professionnels.
Est-ce que ce socle, sur des situations comme ce que nous vivons cet été, nous permet, vous permet d'être autant réactif que s'il y avait une professionnalisation plus forte ?
Bah, écoutez, je pense que ça pourrait être très difficile de remplacer les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires par des sapeurs-pompiers professionnels. Tant en termes de mobilisation que de coûts pour la nation. Et n'est-il pas logique d'avoir des engagés citoyens qui puissent être un petit peu sur la réserve et de pouvoir se mobiliser en masse pour intervenir lorsqu'un événement climatique intervient, ne serait-ce que cette année, les feux de forêt. Nous allons sans doute aller vers les inondations. Pouvons-nous imaginer mobiliser des milliers de personnels dans des casernes à attendre que l'orage arrive ou quelque chose? Et je pense sincèrement, comme tous mes collègues d'ailleurs, 200 000 sapeurs-pompiers volontaires qui sont engagés, que la défense, la protection civile n'est pas le sujet de tous les citoyens.
Alors voilà, ça c'est très intéressant. Moi j'ai présenté le débat d'une certaine manière. Alors, c'était plutôt, tiens c'est bizarre. Vous recontextualisez et on comprend bien comment ça fonctionne. Juste avant de vous laisser avec nos trois vraies voix, capitaine Patrick Blanchet, c'est bénévole, on est d'accord. Les hommes et les femmes qui sont volontaires ne touchent absolument rien. C'est juste pour aider.
Non, il y a des indemnités, oui. Des indemnités horaires en intervention, en fonction de l'intervention, des indemnités horaires du temps passé en intervention.
Voilà. Alors, je vous laisse avec Olivier d'Artigol.
Oui. D'abord, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ce qu'on vient de vivre demande à ce qu'on ait un débat de qualité nationale sur la protection civile et ses moyens. Ça, on y coupera pas. Tirer les enseignements, réajuster les dispositifs. On voit bien aujourd'hui que ce qui était avant exceptionnel va devenir l'ordinaire. Et qu'il faut donc se préparer à des séquences dans les années qui viennent où ce qui nous est présenté justement comme quelque chose de pas courant va devenir la norme. Bien sûr, on peut que saluer au combien l'engagement des pompiers professionnels qui sont 42 000, je crois, dans notre pays et l'ensemble des pompiers volontaires. Qui sont une armée du feu qui a montré par le passé son efficacité et sa complémentarité.
Ils sont même un petit peu plus puisqu'on arrive à 250 000.
Mais je pense que dans la période qui vient, on va devoir reconsidérer l'ensemble du dispositif. Certainement, on a des problèmes, j'en parlerai tout à l'heure, de divers et variés. Mais est-ce que les effectifs des pompiers professionnels ne sont pas amenés à devoir être renforcés, à évoluer pour faire face aux prochaines années?
Capitaine Patrick Blanchet, ça s'entend, en revanche.
Bien sûr, tout à fait. Nous soutenons, d'ailleurs, nous avons un certain nombre de sapeurs-pompiers professionnels qui ont obtenu le concours de sapeurs-pompiers professionnels et qui ne sont pas pourvus de poste. Donc tous les départements... Si vous voulez, c'est vraiment une vraie complémentarité. Nous devons avoir un nombre de sapeurs-pompiers professionnels suffisant judicieusement répartis dans les casernes en fonction des risques de la mobilisation, mais nous ne pouvons pas imaginer positionner des gardes de sapeurs-pompiers professionnels dans des centres de secours ruraux qui interviennent peut-être pas une fois par jour, ne serait-ce que pour, que pour valoriser le sapeur-pompier professionnel. Je pense qu'il trouverait vite un problème à son engagement dans sa profession. Donc notre système est à mon sens tout à fait cohérent. Ne professionnalisons pas les pompiers volontaires pour pallier à un manque de sapeurs-pompiers professionnels. Nous devons, dans les départements, avoir un nombre de pompiers professionnels suffisant pour les casernes, notamment très rurales, où un nombre d'interventions est conséquent. Et nos sapeurs-pompiers volontaires, en complément aussi dans ces centres ruraux, dans ces centres urbains, pardon, excusez-moi, et dans les centres ruraux, des sapeurs-pompiers volontaires mobilisables en nombre conséquent pour pouvoir intervenir, les mobiliser lorsqu'il y a des grandes catastrophes. On sonne, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, le rappel et pouvoir libérer des gens pour venir en renfort.
Bon, très intéressant, vraiment. Là, on pose les bases de la réflexion globale. Nos deux vraies voix qui n'ont pas encore parlé vont intervenir, mais ça réagit au 0826 300 300. Nous allons à Rochefort, c'est les Charentes-Maritimes. Hein. Ludovic est avec nous. Bonsoir, Ludovic.
Bonsoir Frédéric, bonsoir Vrévois et bonsoir Capitaine.
Bon, il y a eu un petit peu de pluie là, à Rochefort ou pas?
Quelques gouttes, ouais. Il y a deux nuits, mais bon, rien de solution malheureusement, mais c'est très très sec.
Bon, allez, votre avis sur cette question qu'on pose, vous avez vu, hein, c'est très intéressant Ludovic, hein, ça s'entend des deux côtés. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Tout d'abord, si vous permettez, je tiens à remercier les pompiers pour leur bravoure, leur dévouement au quotidien. Oui. Il faut vraiment saluer ça très, très régulièrement. Et si vous permettez également un petit fait historique, puisque aujourd'hui, c'est le 15 août, date de naissance de Napoléon Bonaparte, qui a décidé de réorganiser, de professionnaliser l'action contre le feu de la capitale en confiant cette mission à un corps militaire, à des bataillons de sapeurs-pompiers.
Alors là, Ludovic, nous retenons, vous apprenez, bravo, bravo. Vous êtes une vraie voix à part entière. Continuez.
Oh, mais j'adore passer avec vous. Et Sud Radio aime parler vrai sans me plaît.
Bon, alors, votre avis.
Si vous permettez, donc, pour reprendre la question, je pense que la proportion actuelle doit être revue. Le nombre de professionnels ainsi que les moyens qui les accompagnent doit être augmenté pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bon, j'ai également entendu parler d'un besoin de recruter 200 000 volontaires supplémentaires. Alors, il y a peut-être IGSP qui peuvent ouvrir des vocations, mais il ne faut pas oublier qu'au niveau des volontaires, il y a également des formations qui sont nécessaires, des encadrements également par des professionnels qui restent nécessaires. On sait qu'en termes d'aller territoires ruraux, ce sont des volontaires qui tiennent carrément des casernes entières. Donc, et donc le maillage territorial tient également grâce à ces personnes. Mais après, voilà, que se passe-t-il pour ces volontaires-là par rapport à leur engagement, leur intervention répétées, sinon pas de repos compensatoire. Bon, il faut également qu'il y ait une convention employeur, mais l'employeur peut leur demander quand même de faire leur propre travail. Mmh. Donc, ils peuvent accumuler de la fatigue, ils peuvent mettre en péril leur propre vie, leur propre santé. Ils peuvent mettre également en péril la sécurité collective. Donc, voilà, on sait qu'on est à flux tendu. Olivier D'Artigol l'a très bien dit à l'instant. Il y a des rythmes d'intervention effrénés, il y a des périodes également effrénées, la démographie évolue, et donc il y a beaucoup de besoins qui vont apparaître.
Et on se dit combien de temps tout cela va durer. Alors, merci Ludovic, là aussi, vous êtes un peu le porte-parole des auditeurs de Sud Radio, sachez que dans la consultation pour l'instant, vous dites non, à 80%, ce n'est pas d'accord, ce n'est pas possible de fonctionner avec 80% de pompiers qui ne soient pas professionnels. Maintenant, enfin, 76%, 24%, c'est évolutif. Alors, ce que je vous propose, on fait une petite respiration, on revient avec le capitaine pour en parler, le capitaine Patrick Blanchet, et puis surtout, réaction très attendue de nos deux vraies voix, parce que tout ce qui a été dit nous amène à plein de réflexions. Nicolas Jeanneté, Aymeric Guisset sont prêts à sortir leur grande échelle et leur lance à eau.
Leur pompe à eau.
Vous êtes plus pompe à eau, effectivement. Allez, à tout de suite.
Les vraies voix, Frédéric Brindel. En pleine nuit, une sirène.
On ne s'en lasse pas. Sacha Distel. Capitaine Patrick Blanchet, vous la chantez de temps en temps avec les collègues ou pas, celle-là?
Non, non, du tout. Pour ma part, je n'ai pas des talents de chanteur.
Mais ouais, vous avez des talents d'orateur.
Vous avez c'est une chanson qui peut tourner lors de nos cérémonies de Sainte-Barbe.
Bien sûr, bien sûr.
Le bal du 14 juillet.
Voilà, voilà, le bal du 14 juillet. Bon, on va profiter de vos talents d'orateur, cette fois-ci, capitaine Patrick Blanchet, hein, pour avancer dans notre réflexion. Je vous le rappelle, nous posons la question. Trouvez-vous logique que 80% des pompiers ne soient pas professionnels? Bon, la tendance, c'est non, on trouve pas ça normal, mais on vient de dire que c'est pas tant d'avoir des pompiers volontaires qui posent problème, mais surtout le pourcentage, à 80%. D'autant, d'ailleurs, cher Aymeric Guisset, vraie voix ce soir, qu'on peut se poser la question au bout d'un moment, est-ce qu'on va toujours trouver des jeunes, des gens disponibles? Parce que ce genre de démarche est très particulière et de nos jours, ça peut peut-être se perdre. Enfin...
Mais ça nécessite d'avoir une volonté profonde d'aider l'autre et de s'engager hein, pour l'intérêt général, et là-dessus, peut-être une proposition qui peut être dans ce sens-là, pour essayer d'engager des vocations. Globalement, le constat, c'est qu'on fait face, les pompiers, en Europe, on fait face à une situation qui est exceptionnelle, qui est un phénomène inattendu, qu'en tout cas, est nouveau, de très forts incendies en raison du dérèglement climatique. Et donc, on va avoir besoin d'effectifs, de moyens supplémentaires pour combattre ces incendies. Il n'y a pas eu sinon de tension sur les autres aspects de missions réalisées par les pompiers. Ce qu'on pourrait imaginer... comme dispositif, un peu sur le modèle de ce qui est fait aux États-Unis et en Australie, qui sont des pays où il y a beaucoup d'incendies, c'est une réserve citoyenne spécifique contre la lutte contre les feux de forêt. C'est-à-dire qu'actuellement, et ça pourrait être confirmé par la personne qui nous accompagne, c'est qu'actuellement, les pompiers volontaires sont formés sur l'ensemble du spectre de compétences des pompiers. Alors qu'on pourrait éventuellement faire une réserve uniquement sur les feux incendies et donc former cette réserve citoyenne des pompiers volontaires spécifiquement, uniquement aux questions incendies. Et pour parler aux jeunes et la crise de vocation, pour avoir des vocations et de l'engagement, c'est un discours qui peut porter, puisque la question du réchauffement climatique et de la lutte contre les conséquences du réchauffement climatique est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur la jeune génération. Et ensuite, il y a un deuxième volet sur la question des professionnels et finalement des moyens un peu plus généraux. La question de la mise en commun à l'échelle européenne est cohérente pour des moyens supplémentaires pour une raison très simple.
Oui, c'est qu'en fait, on l'a vu, hein, les Allemands, les Polonais, les Roumains
Vous avez une saisonnalité des conséquences du dérèglement climatique. C'est-à-dire que les pays du Sud, globalement, vont être touchés par des incendies plutôt l'été, en raison des sécheresses, et les pays du Nord de l'Europe vont être touchés par des inondations, des crues, au moment de la saison froide, l'hiver et automne. Et donc, il y a un intérêt, finalement, de mettre une coopération de moyens ensemble, puisque finalement ça va bien s'articuler entre les pays du Sud qu'on aura besoin l'été et les pays du Nord qu'on aura besoin l'hiver.
Alors voilà du très concret. Aymeric Guisset, bien sûr, le capitaine Patrick Blanchet vous répond. Bon, juste pour dire quand même que la réserve, bien c'est pour juillet et août, qu'en général les Français sont en vacances en juillet et août, et que bon, bah, s'il y a des vocations chez les jeunes, souvent les jeunes en juillet et août ils cherchent des petits boulots aussi d'été, donc il n'y a pas un truc à trouver, capitaine, là?
Oui, alors pour rebondir, oui, la coopération européenne est très importante sur la spécificité des enjeux climatiques, notamment les feux de forêt. Nos collègues sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels qui sont engagés sur les feux de forêt, les départements qui partent en colonne de renfort des départements du Nord, par exemple, pour aller vers les départements concernés, sont des personnels formés à la spécialité feux de forêt. Et derrière ça, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y a une mobilisation total des autres sapeurs-pompiers pour assurer le quotidien. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons évidemment en lumière les feux de forêt qui sont une catastrophe réelle et qu'il faut traiter. Mais lorsque nous sommes sur les feux de forêt, il faut aussi assurer le quotidien. Et lorsque nous sommes sur les feux de forêt, nos capacités d'intervenir pour assurer le quotidien, il est aussi important. D'où la complémentarité sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires, et notre proposition de recruter 50 000, non pas comme j'ai entendu tout à l'heure, 200 000 sapeurs-pompiers en recrutement, mais c'est aujourd'hui l'effectif est de 198 000 sapeurs-pompiers. Nous estimons un besoin supplémentaire de 50 000 sapeurs-pompiers volontaires supplémentaires, mobilisables lorsqu'il y a des catastrophes, hein. C'est le fait en fait des centres de secours que l'on a fermés depuis 10 ans. On a fermé des centres de secours ruraux parce que dans les centres de secours ruraux, il était estimé qu'il n'y avait pas assez d'intervention. Soit, si on raisonne en termes de potentiel intervention par rapport aux gens, on peut l'admettre. Sauf que nos centres ruraux, en plus d'assurer le maillage dans chaque point du département, est une vraie réserve d'engagés citoyens, de sapeurs-pompiers volontaires mobilisables dès lors qu'il y a une catastrophe. Si nous avons plus ces centres ruraux avec des sapeurs-pompiers mobilisables en temps réel, nous aurons beaucoup de difficultés de faire face à tous les enjeux climatiques qui vont nous arriver.
Après, il faut trouver un petit truc à la Coluche Resto du Cœur, hein, c'est-à-dire, tiens, on s'engage au niveau fiscal, on va pouvoir peut-être trouver... Il faut trouver quelque chose, là, pour inciter, pour fonctionner. Il faut avoir des idées. Ben, il en a, justement, Nicolas Jeanneté.
Oui, mais attention, ouais. Passer les 200... Parce que notre débat se résume en disant on passe les 250 000 pompiers volontaires en professionnels. Mais budgétairement, c'est impossible.
Impossible.
Il faut rappeler que c'est les départements et les villes, mais surtout les départements, qui financent aujourd'hui les pompiers. Et on sait que les départements ont même du mal déjà à payer le RSA. Vous imaginez la difficulté, le coût que ça représenterait pour les départements ou les villes. Il faudrait augmenter les taxes foncières, il faudrait augmenter les impôts locaux. Je pense que c'est bien évidemment impossible. Non, je pense qu'il faut aussi demander à l'État de rénover le matériel. Il faut arrêter de fermer des casernes. Recruter, comme le capitaine l'a dit, je crois qu'il manque aujourd'hui 50 000 pompiers volontaires, plus de moyens financiers. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les pompiers servent aussi à pallier la crise de l'hôpital, la crise des urgences et la désertification médicale.
En plus, oui.
Moi, je suis rapporteur du budget des pompiers de Paris, puisque vous savez que les pompiers de Paris sont des militaires.
Oui, ils sont des militaires.
De la préfecture de police.
Il y a Marseille et Paris.
Et voilà. Et 90% des interventions sont des interventions de premier secours, de grand-mère qui tombe dans la rue, de quelqu'un qui est malade chez lui parce qu'il n'y a plus de médecin d'urgence. Et donc, là aussi, c'est une réflexion globale qu'il faudrait avoir pour éviter que les pompiers, et notamment les pompiers secours, interviennent pour le moindre petit secours.
Bon, très très intéressant. Merci, capitaine Patrick Blanchet, pour votre éclairage. Bon courage à vous. Bon, la pluie revient, ça devrait aller mieux.
Et si je peux me permettre
de
pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur,
oui.
C'est qu'effectivement la professionnalisation, si nous devions dire demain nous professionnalisons les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, revient à 2,5 milliards d'euros annuels pour l'État. Donc qui pourrait aujourd'hui avoir cet esprit et là où nous sommes dans une société qui prône la solidarité, revenir aux valeurs, etc. Je pense que les sapeurs-pompiers volontaires sont l'exemple même de l'engagement citoyen qui vont préserver ce système qui est merveilleux, mais il faut juste trouver les leviers pour promouvoir notre volontariat, inciter nos entreprises à libérer, trouver des conventions.
Oui, il faut imaginer des choses. Hein, là, c'est clair. Hein, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, capitaine, nos auditeurs disent non à 76% pour les 80% de pompiers qui ne soient pas professionnels, mais ils restent là-dessus. Vous êtes nombreux à voter, mais on a bien compris, notamment grâce à votre propos, capitaine Patrick Blanchet, que on est quand même sur un système qui doit perdurer. Justement, le coup de tour de table d'Olivier d'Artigol concerne les départements et les feux. Alors, on salue le capitaine et on envoie le jingle pour le dernier tour de table d'Olivier d'Artigol.
Les vraies voix Sud Radio.
Alors, Olivier d'Artigol, Jean-Luc Glaize et Xavier Fortinon sont les présidents des départements respectivement de la Gironde et des Landes. Ont envoyé une lettre ouverte à Emmanuel Macron sur la question des feux de forêt, des pompiers. C'est votre gros
Après
éclairage.
Le premier grand feu des Landes de Gascogne, plus grand massif de résineux en Europe. À la mi-juillet, les deux présidents des départements ont donc saisi Emmanuel Macron dans le cadre d'une lettre ouverte, faisant un diagnostic qu'on partage tous, mais surtout avançant des propositions. Dans ces propositions, j'en prends que deux, il y a par exemple le fait qu'on réévalue l'assiette de financement des SDIS, qui date d'il y a plus de 20 ans.
Les centres de secours. Hein.
Voilà. Et nous avons besoin, en Nouvelle-Aquitaine, d'une flotte de Canadair positionnée, in situ, pour pouvoir réagir dès le feu naissant, parce que nous savons que c'est dans les toutes premières heures que les choses se jouent. Ça, c'est deux propositions incontournables pour les années qui viennent. Il y en a d'autres. la gestion de la forêt, qu'elle soit privée ou domaniale, les moyens donnés à l'ONF, Emmanuel Macron vient de, le président Macron vient d'annoncer une réunion à la rentrée, donc en septembre, avec l'ensemble des acteurs concernés.
Oui.
Ce que je pose ce soir, simplement, c'est que j'espère qu'on n'aura pas un grand débat blabla, où on reprend tout à zéro, où ça prend des heures, où les acteurs, que ce soit les élus locaux ou les pompiers, sont épuisés parce qu'ils viennent de vivre, les populations. Les solutions, nous les avons. Cette question, elle est instruite. Nous savons ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire. Nous savons là où il faut mettre le paquet en termes de moyens. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une série aujourd'hui de solutions et de propositions qui sont sur la table. Il y a eu un rapport sénatorial, les élus locaux sont des personnes ressources, les professionnels du feu, de la forêt. J'espère que la réunion sera conclusive
immédiatement
parce qu'on a un compte à rebours qui est enclenché. Pour que ça ne soit pas simplement un échange de bonnes intentions, de la com, élyséenne, parce que ça peut exister, le président dira en 10 minutes ça, on fait et on va agir et on va mettre les moyens.
Et d'ailleurs,
parce qu'il y a un risque, vous voyez, je vois le risque un peu.
Il y a une réponse avec une tribune dans le JDD, justement, des pompiers qui ont répondu. Alors, messieurs, on a une minute, juste réaction à ce que vient de dire Olivier Dartigolle,
L'enjeu, c'est pas de réinventer la roue, parce qu'il y a des propositions qui ont été faites de toutes parts, donc c'est plutôt de les confronter.
Qui sont en plus
convergents, donc faire des choix et des arbitrages en fonction des priorités budgétaires, mais aussi de ce qui est facilement applicable à court terme. Il y a des enjeux sur la gestion des forêts, etc., notamment avec des zones tampons pour éviter la dissipation des incendies. Techniquement, il y a beaucoup de propositions qui sont sur la table. Maintenant, il faut agir, et il faut agir vite, parce que dès l'été prochain, on aura la même situation.
Nicolas Jeannetet.
Le budget de l'ONF a été divisé par deux, et 5 milliards...
L'Office national des forêts,
a été divisé par deux. Juste pour terminer, un petit hommage aux pompiers qui se font prendre en guet-apens dans les banlieues. Ce sont aussi des pompiers et qui se font prendre par des pires tirs de mortier. Le capitaine, dans le 15e, au moment du 14 juillet, a eu sa gorge à moitié tranchée parce qu'elle a reçu un tir de mortier. Les pompiers, c'est ça aussi, c'est les feux de forêt. Ouais. C'est l'inondation, mais c'est aussi le quotidien dans les villes.
Bon, vous trois, là, ça a été un régal. Merci, messieurs. Olivier Dartigolle, Nicolas Jeannetet, Aymeric Guisset, nos trois vraies voix de ce soir, c'était un plaisir. Merci aussi à notre réalisatrice Lucille Montier, à Aurore Cachia qui s'est occupée de ce lien avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, les infos.